extraordinaire sur Terre que le phénomène volcanique, c'est certainement le spectacle le plus grandiose qui soit sur Terre.
Haroun Taziev, 1959.
Vous voyez des milliers de tonnes de matière projetées à des vitesses de 300 km à l'heure jusqu'à 2000 mètres d'altitude. Rien n'arrive à cette échelle. Devant un lac de lave de 40 hectares qui bouillonne, on a vraiment l'impression d'être devant ce qui est l'essence même du globe.
Quand vous êtes tout en haut d'un volcan indonésien, pointu à 3000 mètres, et que vous ne voyez qu'une marée de nuages au sol qui vous isole des hommes, mais que vous entendez quand même la musique du gamelan, des gens qui se réveillent le matin, ding, 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 mais vous voyez que des volcans pointus à l'horizon, vous avez l'impression, vous, d'être un humain particulier, séparé des autres et en connexion avec ce qu'il y a au-dessus. C'est des moments privilégiés. C'est pas forcément religieux, hein, bien évidemment, mais c'est la puissance de l'univers, de l'histoire de la Terre.
Haroun Taziev fait partie de derniers grands explorateurs du globe, des régions inexplorées de notre planète, tels Théodore Monod pour les déserts, Paul-Émile Victor pour les pôles, Jacques-Yves Cousteau pour le fond des océans, jusqu'à une certaine profondeur. Pour la très grande profondeur, c'est Auguste Piccard, pour les abysses comme pour la stratosphère, et puis Haroun Taziev pour les montagnes en feu, pour les volcans.
Haroun Taziev, 1914-1998, au plus près des volcans. Un documentaire d'Élise Gruau et Agnès Catou.
La signature Haroun Taziev, c'est vraiment une silhouette qui se dessine sur fond d'immensité colorée avec des effluves volcaniques.
Haroun Taziev est un personnage entier, spontané, généreux, de mauvais caractère aussi, il le reconnaissait lui-même, qui a le premier affronté la plupart des volcans en activité éruptive du monde, qui a affronté les éruptions comme personne ne l'avait fait avant lui, pour plonger le premier regard humain à notre connaissance dans un cratère en pleine éruption.
Haroun Taziev, c'est l'homme des volcans, qui incarne l'aventure et le spectacle du monde au plus près des cratères en éruption. Mais je vous parle d'un homme que les moins de 40 ans ne peuvent presque plus connaître. Tant après une carrière prodigieuse et une popularité inouïe, Haroun Taziev a subitement été occulté des prime time et des études universitaires. Aujourd'hui, les positions bougent à nouveau, avec l'émergence de nouvelles générations. Et l'on peut redécouvrir combien ces explorations ont révolutionné la perception du globe terrestre. À travers le témoignage de proches et d'anciens coéquipiers, retrouvons le plaisir d'écouter Taziev nous faire rêver notre planète vivante. Patrick Allard, volcanologue et ancien coéquipier de Taziev.
La nuit, quand on était dans les volcans, dans ces volcans, Nyiragongo ou d'autres, ou sur l'Etna par moins 18 dans des igloos, dans ces nuits, à la fois ou glaçantes ou au contraire tropicales ou très chaudes auprès d'un lac de lave, ces moments-là étaient privilégiés parce que Taziev était un conteur extraordinaire.
Mon souvenir le plus lointain, je crois que c'est une plage au bord de la mer Caspienne.
1959.
En Finlande, qui à l'époque appartenait à la Russie. Et on allait passer l'été, je me souviens, d'un tout petit mioche qui grouillait dans le sable. Et il y avait de magnifiques petits cailloux transparents et colorés que je suppose être des quartz roulés par la mer. Et je devais avoir 2 ans, 3 ans et je m'amusais énormément à collectionner ces petits cailloux.
Alors Taziev, il avait cet accent rocailleux à rouler les airs et qui lui venait de son enfance en Russie. Son père était un ouzbek russe. Il est mort très tôt, donc à la guerre. Et sa mère était lituanienne, un mélange lituanienne-polonaise. Une mère qui était une mère absolument magnifique, mais tyrannique avec lui, et qui l'a poussé aussi, et qui l'a encouragé, qui était aussi un élément fondateur et central dans sa personnalité et dans sa vie. Et donc Taziev avait cet accent qui faisait son charme. On reconnaissait Taziev à son accent. Mais on pouvait ne pas voir la télé, juste la radio, on savait que c'était Taziev.
Taziev est né en 1914 à Varsovie. La famille du côté paternel de sa maman faisait partie de la haute société russe sous l'Empire tsariste.
Frédéric Lavacherie, fils de Harun Taziev et auteur d'une biographie sur son père.
Son grand-père maternel était un médecin juif polonais. Ça, c'est pour la maman. Le papa, Sabir Taziev, était le dernier-né d'une famille nombreuse d'intellectuels musulmans tatars de l'Ouzbékistan. C'était une famille musulmane pratiquante, mais d'une branche de l'islam assez proche sur le plan philosophique, par exemple, des Lumières. Donc sur le berceau d'Harun Taziev se sont penchées les cultures catholiques orthodoxes, juives, musulmanes et la philosophie des Lumières. Donc c'est le bain culturel dans lequel Taziev est né de par ses deux parents. Les parents d'Harun Taziev sont arrivés jeunes gens à Bruxelles pour faire des études, le papa pour faire des études de médecine et la maman pour faire des études d'une part de sciences politiques et d'autre part de sciences naturelles et de chimie. Ça, c'était en 1903. Harun Taziev est né en mai 1914. Son père est mort au début août 1914 sur le front et il est resté en phonique.
Après, je me souviens du Caucase où ma mère, qui était veuve depuis 14, m'a emmené en 17. Nous habitions à Tiflis et nous allions passer l'été dans un lieu de villégiature qui s'appelait Borjom, qui est une espèce de ville d'eau. Et en face, il y avait, je me souviens, de grands pics neigeux, dont l'un était le Kazbek, qui est un peu plus de 5000 mètres. Et peut-être de là date mon amour des montagnes. Je suis resté là jusqu'à 6 ans et demi. Après ça, c'était la grande famine en Russie, c'était les années 20-21. Et je me souviens du pain qui était très noir et très collant, qui sentait le pétrole.
Sa mère, qui est docteur en sciences naturelles, elle va arriver en Belgique au cours des années 20.
Arthur Mallet, historien, en cours de recherche pour la première thèse sur Harun Taziev.
Elle va se marier en 1922 avec Robert Vivier, qui était un poète belge relativement connu. Et donc Harun Taziev va avoir un milieu culturel favorisant cette curiosité intellectuelle, puisqu'elle se traduit aussi par une approche assez contemplative de la nature. À la fois ses premières études en entomologie, où au final il s'intéressait aux insectes, à la compréhension du monde vivant, et il va avoir un glissement progressif vers la volcanologie.
Taziev, il a une formation initiale de ingénieur agronome, puis géologue.
Patrick Allard.
À cette époque-là, le Congo belge, il était en Belgique, il vivait à Bruxelles. Donc la Belgique était la puissance tutélaire coloniale du Congo à cette époque-là. Et Taziev a été envoyé comme géologue minier au Katanga, les fameuses mines du Katanga, parce qu'effectivement, ce Congo, il regorge de ressources minières, de diamants, du cuivre, du cobalt, de l'or, etc. Tout ça lié à l'activité volcanique, qui a déposé ces éléments au cours des temps géologiques. On est en 1948, donc il est envoyé là-bas, à la frontière entre ce qu'on appelait Zaïre autrefois, l'ex-Congo belge et le Rwanda, avec des volcans de 3000 mètres, des gorilles tout autour, et au fond d'un des volcans, le Nyiragongo, un lac de lave permanent, le magma, sur 300 mètres de long, 100 mètres de large, bouillonnant, clapotant, et en permettant un accès tout proche, et une vision inouïe, quoi. Et il est subjugué, stupéfait par ce phénomène. Et il voit cette colonne incandescente, l'éruption qui est très lointaine, qui est difficile à accéder, qui monte jusqu'à plusieurs kilomètres. Et d'un seul coup, il a une révélation d'un phénomène majeur terrestre. Et donc il a été convaincu qu'il fallait étudier cette éruption. Il savait que c'était un volcan sur lequel il y a beaucoup de gaz, il y a du nuage au sommet, c'est pas toujours clair. Donc là, il a décidé de descendre dedans, tout seul. Ce qui est complètement absurde maintenant, de nos jours. Et j'ai été au Nyiragongo avec lui après, on faisait pas ça. Il est descendu tout seul, 180 mètres de parois quasi verticales, ou presque, enfin avec des blocs qui tombent. Et il a réussi à atteindre la plateforme au fond de ce cratère. Et là, il a découvert qu'au fond de ces fameux nuages qui se formaient, il y avait un lac de lave.
J'ai eu la chance d'être le premier à descendre dans le cratère du Nyiragongo et tâcher de voir ce qu'il y avait au fond.
Harun Taziev, 1963.
Nous avons eu le spectacle absolument extraordinaire d'un immense lac de lave en fusion. C'est un lac de lave en fusion permanente. Imaginez quelque chose comme l'esplanade des Invalides, fait de roches en fusion. De roches rouges, roses, jaunes, et noires, bouillonnant, rugissant. Quelque chose d'absolument prodigieux. Ça se trouvait encore à plus de 200 mètres sous nos pieds. Et c'était une vision absolument gigantesque, grandiose.
Et donc il s'est dit, mais c'est fantastique, il faut absolument étudier ça. Et il est rentré en Europe après. Des rencontres opportunes l'ont ensuite amené à Stromboli, au moment où Rossellini tournait son film avec Ingrid Bergman. Et puis l'année suivante sur l'Etna, il a découvert différents aspects de l'activité volcanique. Et il s'est dit, la Terre est vraiment beaucoup plus dynamique et mouvante que ce qu'on pensait. Le volcanisme est un phénomène fondamental, il faut qu'on étudie ça, et moi, c'est ma passion. Et il s'était dit tout de suite, pour documenter le volcanisme, je vais filmer, je prends une caméra. Alors au début, c'était pas top, ces images, mais c'était souvent assez unique. Et puis petit à petit, il a appris, il est devenu meilleur. Il rencontre Paul Émile Victor, jeune, dynamique, leader des recherches françaises sur les pôles, qui déjà faisait des conférences grand public. Il la rencontre à Bruxelles et il a montré à Paul-Émile Victor quelques-uns de ses films. Et Paul-Émile Victor lui dit, mais il faut que tu fasses toi aussi des conférences et tu continues à faire des films sur les volcans, c'est formidable. Les gens, c'est peu connu, il y a tout un créneau, etc. D'où est née la passion non seulement de Taziev pour étudier et comprendre les volcans, mais aussi pour faire de la divulgation, de la vulgarisation sur ce phénomène incroyable auprès du public.
Cette science, cette connaissance, ou l'embryon de connaissance que nous en avons...
Haroun Taziev, 1970.
J'ai eu la chance de pouvoir la vulgariser plus par l'image que par la parole. C'est beaucoup plus simple d'abord par l'image, et je suis né au bon moment. Je suis arrivé sur ma première éruption au moment où existait cet outil étonnant qu'est la caméra de cinéma et le film en couleur. Et j'ai ramené des images en couleur faites à très courte distance de ce phénomène qui, lorsqu'il est vu de près, est extrêmement spectaculaire. Et c'est cela que j'ai montré, c'est cela qui, au fond, m'a fait connaître.
Alors c'est là aussi toute l'innovation qui est portée par Haroun Taziev, c'est d'aller filmer au plus proche le volcan, donc généralement avec une caméra mobile en 16 mm.
Arthur Mallet.
Il va basculer à un changement de représentation par rapport à la volcanologie, c'est-à-dire que le phénomène éruptif avait de l'attention médiatique lorsqu'il y avait une éruption, mais comme un fait d'actualité. Alors qu'avec Haroun Taziev, on va basculer sur l'intimité du volcan et la compréhension. C'est le premier volcanologue qui amène des images qui vont être en fait ancrées dans la culture, parce que dans les médias, il va être omniprésent, donc dans les articles sur Paris Match, dans les articles du Figaro pour les tirages à grand public, mais aussi à travers les ouvrages, par exemple Cratère de Feu, et puis toute une série de conférences, donc le modèle de l'aventurier conférencier, notamment à la salle du Pleyel à Paris. Il va intégrer le réseau du Club des Explorateurs, mais aussi Connaissance du Monde. Et c'est par là en fait où il va avoir un pouvoir de vulgarisation qui va dépasser le simple cadre scientifique pour s'élargir à toutes les strates un petit peu de la société.
Haroun Taziev, 1984.
Ce qui est très étrange, c'est que pendant des millions d'années, ces sédiments se déposent en strates superposées, toujours à 100-200 mètres de profondeur, parfois même moins.
C'est une figure qui fait de l'audience, c'est-à-dire que son teint un peu basané, son accent rocailleux où il roulait les airs, sa franchise, son authenticité en faisait quelqu'un que les Français ont beaucoup apprécié. Et puis aussi, il avait cette faculté de rendre des choses complexes accessibles. Le style Taziev, en tout cas en termes de médiatisation, il repose sur un langage imagé. Il utilisait souvent la métaphore de l'œuf pour décrire le globe, le manteau terrestre.
La Terre ressemble assez à un œuf mollet, avec sa coquille, l'écorce terrestre, son blanc, le manteau, et son jaune, le noyau.
La croûte terrestre, ce qu'on appelle en jargon scientifique la lithosphère, c'est-à-dire la sphère de pierre, elle est solide. Mais en dessous de cette coquille qui est extrêmement mince, parce qu'elle fait, donc disons, une centaine de kilomètres d'épaisseur moyenne à lithosphère, par rapport aux quelques 13 000 kilomètres du diamètre du globe. 600 kilomètres, c'est rien du tout. On voit une coquille d'œuf. En dessous de cette coquille d'œuf, il y a ce que les géologues appellent la sténosphère.
Patrick Allard, volcanologue.
J'ai rencontré Aruntazieff la première fois, j'avais 10 ans. J'ai été emmené par ma mère au cinéma pour voir un film qui s'appelait « Les rendez-vous du diable ». C'était le premier film, premier grand documentaire, grand public, qu'a réalisé Aruntazieff à la suite d'un tour du monde des volcans pendant 2 ans, découvrant les volcans du monde entier. Et ce film, d'un seul coup, présenté au public, a été le premier documentaire au plan international, même, on peut dire, montrant l'intérieur des volcans et faisant découvrir à tout le monde, alors moi en particulier, ce que c'était que le volcan et la dynamique incroyable de la Terre. Et j'ai dit à ma mère en sortant de la salle de cinéma, évidemment, comme on dit à 10 ans, plus tard, quand je serai grand, je serai volcanologue.
Georges Charansol, dans Le Masque et la Plume, 1959.
Je trouve tout de même, permettez-moi de vous le dire, mon cher Pollack, absolument scandaleux que nous n'ayons absolument rien dit du film le plus important qui est paru sur les écrans français peut-être depuis plusieurs années, qui est Les rendez-vous du diable de Taziev.
Amen.
Alors là, vraiment, je vous le dis très amicalement, vous ne faites pas votre métier.
Ah, mais je vous
parce qu'il fallait vraiment commencer par là, au lieu de nous engager sur des vagues Hitchcockeries, chabranleries et autres d'assinerie. C'est le film du courage, de la poésie, de la violence, c'est tout, c'est le cinéma.
Alors ça, c'était ma première rencontre virtuelle avec Taziev, bien sûr, qui est devenue mon idole. Je collectionnais tous les articles de presse sur lui, ses bouquins qui étaient sortis, enfin bon, tout sur les volcans. Et puis, il s'est trouvé que je jouais au rugby, ce qui était aussi une autre passion. Et à 17 ans, par pure chance, un jour, mon équipe a joué contre la sienne, puisqu'il était aussi un fan de rugby, d'alpinisme, de plein de sports. Hein. Et donc, après le match, je suis allé le voir en lui disant très timidement: j'ai décidé d'être volcanologue, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que vous me commandez, etc. Il était super sympa, il m'a tutoyé, passé son numéro de téléphone, et puis il m'a dit, bah, si tu as ton bac, si ça marche bien, bah, je t'emmène avec moi, avec mon équipe, on a une mission prévue sur les volcans italiens en juin. Et donc j'ai pu ensuite aller sur les volcans avec lui, découvrir les volcans très tôt, d'abord italiens, puis ensuite en Afrique. Et donc ça booste ça dans la vie. Au début, ce qu'on peut dire, c'est que Taziev avait une culture scientifique naturaliste, d'étude des roches, en fait, hein, des roches volcaniques, des roches, d'autres roches, les minéraux, bien sûr. Donc, il n'avait pas une connaissance scientifique du volcanisme, bien évidemment. Hein. Il n'était ni chimiste, ni physicien, il était géologue. Et donc, ses premières approches des volcans étaient plus, on va dire, observationnelles. Analyse des roches, bien sûr, mais observationnelles sur la dynamique des phénomènes. Il était convaincu qu'il fallait étudier scientifiquement le phénomène volcanique, les volcans. Mais pour ça, il n'a pas fait ça lui-même, tout seul. Il a attiré à la volcanologie, à l'étude des volcans, différents professeurs ou chercheurs qui étaient spécialistes soit de physique, de chimie, de géologie même, ce qu'on appelle la pétrologie, la science d'étude des roches, etc. Et donc il a attiré des gens à lui. C'est un leader, Taziev. Il a un caractère assez fort, il est convaincant, il parle bien, il a une stature, et il est trapu, baraqué, et il a été résistant pendant la guerre en Belgique. Il a pris des risques, il aime bien le risque. C'est une motivation forte chez lui. Et il convainc les autres, même ceux qui ne sont pas du tout fans de risque.
Ce vêtement nouveau, fibre de verre anti-choc, aluminisé pour réfléchir la chaleur rayonnée par la lave, va nous permettre d'affronter les bombes lancées par les gueules explosives et de séjourner sur leur bord. Ainsi armés, masque à gaz prêt, nous descendons pour une première reconnaissance.
Aruntazieff, 1963.
Il y a actuellement 6 bouches en activité. Je dis actuellement parce que la topographie et l'activité d'un cratère varient de façon parfois étonnante d'une année à l'autre, voire d'une semaine à l'autre.
Mais ce matin, ça pétait fort. Hein.
Oui. Et alors pourquoi est-ce que tu veux retourner cet après-midi?
Mais parce qu'on n'a pas fait les analyses, qu'on a fait que les échantillons neige.
Oui, mais pourquoi cette bouche-là précisément?
Parce qu'avec le vent qu'il y a, à l'autre, on va être tout simplement asphyxié pendant tout l'après-midi qu'on y passe. Hein.
Ah, il est dégueulasse le café.
Pour réduire les risques, nous procédons par série de red breath afin de ne guère passer chaque fois plus de quelques minutes d'affilée dans la zone bombardée. Et nous battons en retraite, aussitôt achevée l'analyse, l'échantillonnage ou la mesure. Cela ne nous empêche pas de nous trouver parfois au beau milieu de la grêle des mottes de roc fondu et des scories vomies par le cratère. Le travail se poursuit néanmoins, car ces bombardements sont moins dangereux qu'il ne paraît, à condition bien sûr d'avoir le sang-froid et les réflexes nécessaires.
Jean-Christophe Sabrou, vous êtes ingénieur, volcanologue, et vous avez accompagné Haroun Taziev sur de nombreuses expéditions sur les volcans. Qu'est-ce qui vous reste de ces paysages extraordinaires en regardant la Terre en activité?
J'avais jamais vu un volcan, et on est parti à l'Erebus, en Antarctique. Donc on a découvert ce volcan, il était allé l'année précédente, mais on a fait la première descente au fond du cratère, enfin du premier plancher du cratère, puis il y a un puits de feu avec un lac de lave. Volcan extraordinaire. Et c'est là que j'ai découvert Taziev sur le terrain. Ça, c'est quand même quelque chose d'inoubliable, quoi. Là. Sa lecture du paysage, des phénomènes éruptifs. Et puis son enthousiasme. Il avait 60 ans, là. Son enthousiasme de jeune homme ou de gamin devant la beauté du spectacle. Hein. La beauté de la Terre, quoi.
Et ce volcan Erebus, il était particulièrement beau?
Ah, 4000 mètres, oui, c'est un géant, en activité permanente, avec une lave tout à fait extraordinaire, qu'on ne retrouve qu'un seul endroit sur Terre, c'est au Mont Kenya, volcan éteint, là. Et en activité permanente, avec un lac de lave, et des lacs de lave, bah, il y en a un autre à l'Ertale, et il y en avait un au Kilauea, au Hawaï, et un, bien sûr, au Nyiragongo, que Taziev connaissait depuis fort longtemps, puisque c'est là qu'est née sa vocation de volcanologue. Il y a des photos spectaculaires, hein, au Stromboli, où il est en silhouette devant les fontaines de lave. Il a certainement pris des risques. Il était ému par la joie de l'effort physique, le plaisir de connaître, mais aussi le goût du risque. Mais enfin, avec lui, on n'a jamais été vraiment exposé, sauf une fois au Krakatoa, c'est une île perdue dans le détroit de la Sonde. Hein. On était tellement enthousiastes d'être sur ce volcan mythique, le Krakatoa, qui a fait une éruption gigantesque au XIXe siècle, en 1883. Eh ben, on est allé voir, quoi. S'est rapproché, sans avoir le temps d'observer. On a été pris par une explosion. On s'en est bien tiré. Mais il nous avait dit faut esquiver, faut surtout pas partir en courant, hein. Mais faut regarder en l'air et esquiver.
Haroun Taziev avait été sélectionné dans l'équipe belge amateur de boxe,
Frédéric Lavacherie,
pour les Jeux Olympiques de 1936 à Berlin, avec, paraît-il, une réelle chance de médaille. Mais sa maman n'a pas voulu qu'il défilât sous Hitler et lui a interdit d'y aller. Il est devenu champion de boxe du Katanga quand il était en poste comme jeune géologue là-bas.
Cette longue pratique de la boxe de combat, j'insiste bien sur le fait que c'est du combat.
Haroun Taziev, 1970.
M'a donné d'autres atouts qui sont le sang-froid, l'habitude de se dominer, de ne pas montrer qu'on a peur ou qu'on a mal. Dans un combat de boxe, avant le combat en tout cas, tout boxeur normalement constitué a peur. J'ai eu peur avant la cinquantaine de combats que j'ai livrés, j'ai eu peur avant chaque combat pratiquement. Vraiment peur. Il ne faut pas le montrer évidemment. Donc, 12 années de ce sport m'avaient forgé une espèce de cuirasse qui m'a été extrêmement utile dans l'approche des volcans en éruption. Ce besoin d'affronter le risque et de se prouver que l'on été capable de l'affronter. Je l'ai très certainement connu et j'ai pratiqué ce risque pendant, certainement, la première demi-douzaine au moins de mes années de volcanologue, peut-être davantage. Depuis lors, j'ai acquis un minimum de sagesse et comme j'ai maintenant toujours responsabilité d'âme, puisqu'on peut faire de véritables volcanologies sans être une équipe relativement nombreuse de spécialistes divers, eh bien, les personnes que j'emmène sont évidemment sous, je dirais, ma sauvegarde. C'est moi qui les ai entraînés à faire ce métier, c'est moi qui les emmène là-bas, et je dois les ramener vivants. Et alors là, je suis devenu d'une prudence de mère poule.
Monter sur un volcan avec Taziev, c'est quand même une expérience assez inoubliable.
Jean-Christophe Sabrou.
Tout d'abord, quand on n'a jamais connu de volcan, on se dit, si je ne tiens pas trop loin de lui, depuis le temps qu'il va sur les volcans, il ne va rien m'arriver. Alors, Arun Taziev, qu'on appelait Garou, qui était très entouré, il avait cette capacité de fédérer des équipes, et puis des jeunes enthousiastes qui faisaient Sherpa, c'est-à-dire qui passaient leurs vacances sur les volcans, à porter les appareils, d'autres à faire la cuisine, assurer la logistique, etc. Ce qui fait que, effectivement, sur le volcan, surtout sur l'Etna, parce que c'est quand même plus accessible, on était assez nombreux.
Et Jean-Christophe Sabrou, qu'est-ce que vous étudiez, vous, sur les volcans, dans l'équipe Taziev?
Ma compétence, c'était la chimie des gaz. On s'est beaucoup intéressé aux gaz qui sortent du sol, parce qu'un volcan transpire. Taziev voyait le potentiel de la télédétection, mais ça ne lui plaisait pas tellement. Il préférait qu'on aille au bord de la lave pour prélever dans des petites ampoules vidées au préalable, qu'on ouvrait, reliait un tuyau vers une fumerole. On ouvrait, on remplissait l'ampoule. Ça lui plaisait.
Patrick, alors, Arun Taziev a mis en évidence l'importance de l'étude des gaz lors des manifestations volcaniques. Qu'est-ce que ça a permis de comprendre des volcans qu'on ne savait pas avant?
Il a commencé à développer de la recherche en étant de plus en plus convaincu, en voyant différents types de volcans à travers le monde, que les gaz, les fameux composés volatiles qui sont dissous dans les magmas, alors c'est de la vapeur d'eau, c'est de l'eau, du dioxyde de carbone, CO2, c'est du soufre, qui est souvent sous forme de dioxyde de soufre ou la H2S. Et puis aussi, c'est du chlore, c'est de l'acide chlorhydrique, c'est du fluor, l'acide fluorhydrique. Enfin, il y a plein d'éléments volatiles, les majeurs, c'est ça. Et ces éléments volatiles, ils sont dissous dans le magma, mais quand le magma remonte vers la surface, ils forment des bulles. Et puis ces bulles, comme une bouteille de champagne qui s'ouvrirait doucement, quoi, on va dire, ou plus violemment en certains cas, plus rapidement, ces bulles, elles s'agrègent, elles allègent le magma, elles facilitent sa remontée, puis quand elles arrivent en surface, elles éclatent, et c'est ça qui fait les projections de magma. C'est l'enveloppe des bulles qui claque. Et donc il s'est dit, mais les gaz, ça remonte vite, ça joue un rôle moteur dans les phénomènes éruptifs, et donc il faut comprendre ce que c'est. On ne savait pas très bien encore à l'époque de quoi c'était composé, on ne savait pas mesurer la quantité qui sortait, les variations, bien sûr, avec le temps. Donc l'idée, c'était de regarder ces variations en fonction de l'activité éruptive et voir si on ne pouvait pas trouver des signaux précurseurs des éruptions à travers ces gaz, ces bulles, qui peuvent remonter plus vite que le magma jusqu'à la surface, parce qu'elles sont légères. C'était un développement de notre capacité à enregistrer, à comprendre le fameux message que portaient les gaz volcaniques, tant pour comprendre la dynamique des éruptions, avant, pendant et après. On pouvait, par exemple, à partir des gaz, évaluer quand une éruption était plutôt sur déclin, il allait se terminer, ou au contraire, quand une éruption allait survenir. Mais également, de relier mieux, de manière nouvelle, complètement innovante, les gaz émis par les volcans au contexte tectonique de formation des magmas. Et on a pu reconstruire une histoire des éléments volatiles constitutifs de la Terre dans sa configuration actuelle, mais également au cours du passé. Et donc relier le volcanisme à la tectonique des plaques et plus généralement l'histoire de la Terre, l'histoire de la formation de la Terre. Comment la vie est apparue?
L'importance du volcanisme dans le monde, ce ne sont pas les volcanologues qui l'ont démontré.
rencontrer, donc pas nous.
Haroun Taziev, en 1976.
Ce sont, c'est assez paradoxal, des océanographes, des géophysiciens travaillant sur des navires, sur l'Atlantique d'abord, sur le Pacifique après, qui ont découvert, il y a une vingtaine d'années de cela, que le fond de tous les océans était fait de lave, de basalte. Et ils ont démontré, par l'étude de ces laves et de ces basaltes, que le fond des océans est en continuelle expansion. Les océans croissent continuellement à partir d'une fissure centrale. Ce sont des espèces de gigantesques tapis roulants qui s'écartent. Et à cause de cela, ils écartent les continents qui jadis se trouvaient rapprochés, qui se trouvaient contigus. Alors, toute l'histoire de la dérive des continents est expliquée par le volcanisme, mais ce ne sont pas nous, ce n'est pas les volcanologues qui l'avons trouvé.
Haroun Taziev, 1984.
Nous sommes dans la fabuleuse dépression de l'Afar, dans la corne de l'Afrique orientale. L'horizon, mieux que n'importe où au monde, montre la structure de ce qu'on appelle un rift océanique, l'endroit à partir duquel les fonds océaniques s'engendrent. Et de part et d'autre du fossé central, les immenses gradins qui attestent de la structure effondrée de tout cela. L'Afar, la dépression de l'Afar, entre le sud de la mer Rouge et le golfe d'Aden.
Haroun Taziev, il va développer un lien affectif fort avec la région de l'Afar.
Arthur Mallet.
L'Afar, c'est au niveau de la Corne de l'Afrique, un petit peu l'actuelle Éthiopie, Djibouti. Et il va faire beaucoup de prospections dans cette région. Il va mener une série de plusieurs expéditions entre 67 et 73, avec Jacques Varé notamment, où il va s'intéresser au magmatisme de cette région. Cette région, elle est très importante en fait d'un point de vue géologique, d'un point de vue de la constitution en fait de la Terre. Alors je suis pas géologue, je suis historien, mais elle est très importante en fait de ce point de vue-là parce qu'il va permettre d'objectiver avec une méthode d'observation directe le modèle de la tectonique des plaques qui était alors en débat. C'est-à-dire que il a contribué à un changement de paradigme. Dans les années 50, le paradigme dominant, c'était une conception fixiste, c'est-à-dire que le globe ne bougeait pas. Et on va passer un petit peu à une vision beaucoup plus mobiliste, c'est-à-dire que des plaques sont en mouvement les unes par rapport aux autres. Et le moteur aussi, qui fait partie à l'évolution de ces plaques et à leur mouvement, c'est le volcanisme. Et en fait, la région des Afars, elle a la particularité où la dorsale médio-océanique, c'est-à-dire là où il y a de la poussée magmatique, elle est en fait à l'air libre, et de là, ils vont pouvoir mesurer en situation la vitesse d'écartement des plaques, et donc de prouver que le globe est une structure active, et non pas quelque chose de figé, de plutôt mobiliste.
Nous sommes devant l'entrée de l'IPGP, l'Institut de Physique du Globe de Paris, tout près du Jardin des Plantes de l'Université de Jussieu, où a travaillé Haroun Taziev. C'est un centre d'observation où l'on étudie l'activité du globe terrestre.
Vous avez vu qu'il y a une bande rouge illuminée sur le bâtiment, là, il fait tout le tour.
Patrick Allard, volcanologue. Bonjour. Et ancien coéquipier de Taziev.
Ça reproduit in extenso là, ce qu'on appelle les dorsales océaniques, c'est des grandes chaînes volcaniques à partir desquelles se forme le fond des océans, qui écarte les plaques et qui couvre 70% de la surface de la Terre. Et l'IPGP, c'est 500 personnes, en gros, qui travaillent sur toutes les sciences de la Terre, depuis le noyau terrestre jusqu'à l'astrophysique, quoi. Donc, des gens qui touchent à tout, et dont la volcanologie. Voilà. Ça, c'est la médiathèque.
On va rentrer.
Allez-y. Je vais vous montrer les dorsales océaniques. Voilà, on a le globe terrestre.
Donc, on a une reproduction d'un globe terrestre avec les reliefs De tous les continents
et de tous les reliefs sous-marins. On a enlevé l'eau des océans et donc on arrive à voir ce que c'est que l'écorce terrestre, non seulement sur les continents, qui sont en évidence, puisqu'ils sont hors de l'eau d'habitude, on les connaît, mais même de ce que c'est que l'écorce terrestre sous l'eau des océans. Et donc les fameuses dorsales océaniques dont je vous parlais, c'est cette déchirure de la croûte terrestre. Hein. Ici, on les voit bien. Là, elles traversent, par exemple, la mer Rouge qui s'ouvre. Il y a une rotation. L'Arabie s'en va par là et s'écarte de l'Afrique. Il y a des volcans ici, là, partout, sous l'eau. Et puis même en Éthiopie, en Érythrée. Et puis on voit cette dorsale qui se propage dans l'océan Indien, qui se propage tout autour de la Terre.
Ces dorsales, là, quand on les voit en relief comme ça, comme des immenses colonnes vertébrales peu tordues, on a l'impression que c'est comme la charpente de la Terre.
Oui, c'est un peu ça. Enfin, colonne vertébrale, c'est pas mal comme analogie. Effectivement, c'est un endroit où, dans le manteau terrestre, qui n'est pas liquide, c'est des roches solides, hein, mais très chaud, c'est pâteux, on va dire ça comme ça, ces roches pâteuses se déplacent lentement, mais suffisamment pour faire des grands courants dans le manteau de la Terre et écarter les morceaux d'écorce qui flottent en surface. Et donc, ça arrive à casser ces morceaux d'écorce, casser les continents et à les écarter. Et par exemple, l'Afrique remonte vers la plaque Eurasie à en gros 1,5 cm, 1 cm par an, ce qui fait que la Méditerranée se ferme et la Méditerranée qui autrefois était un gigantesque océan grand comme le Pacifique. On a du mal à imaginer ça. Donc, on s'est calculé dans combien de millions d'années, en fait, l'Afrique, les gens pourront traverser à pied, parce que l'Afrique sera collée à l'Europe du Sud.
Taziev, très tôt, a été convaincu par la tectonique des plaques. Il n'y en avait pas beaucoup, hein, parce que c'était une hérésie. La dérive des continents, qu'on appelle maintenant tectonique des plaques, s'est imposée au milieu des années 60.
Jean-Christophe Sabroux.
Donc là, il était en pleine activité de volcanologue. Ça l'a vraiment réjoui de voir qu'il avait non seulement raison, mais que ça expliquait les deux types de volcanisme, pour simplifier, c'est-à-dire le volcanisme des plaques qui s'écartent au fond de l'océan, en Islande, et le volcanisme des plaques qui s'affrontent en Indonésie, au Japon, dans l'État de Washington, enfin la côte ouest des États-Unis, l'Alaska, en face, les Kuriles, le Japon, etc. Ça, c'est donc un volcanisme explosif, parce qu'il dispose de plus de gaz, et donc c'est les gaz volcaniques qui rendent l'éruption explosive. Alors que les endroits où les plaques s'écartent sont des volcans plutôt effusifs.
Donc il y a les éruptions effusives, qui sont plutôt douces, qui s'écoulent, et les éruptions explosives, qui sont celles qui sont les plus spectaculaires, mais aussi les plus dangereuses.
Les plus dangereuses, et on ne connaît pas leurs limites. L'éruption explosive peut couvrir un continent de cendres. Et ça, c'est très effrayant, et ça, c'est très compliqué pour le volcanologue, parce qu'on pense toujours que la prévision, c'est la prévision du début d'une éruption. Non, ce qui compte, c'est l'évolution de l'éruption. Quand est-ce qu'elle terminera et qu'on pourra, si on a évacué, ramener les populations là où ils habitaient avant l'éruption? Ça, c'est très compliqué. Et on n'est pas encore à prévoir l'importance d'une éruption qui s'annonce.
Pour vous, Jean-Christophe Sabroux, quel serait le souvenir vraiment marquant avec Aruntazieff?
Les moments où, après une journée où on est arrivé à recueillir quelques données, ce n'est pas toujours le cas, les appareils sont soumis à rude épreuve, se cassent, il y a des tas de choses qui ne marchent pas, mais quand ça a bien marché, et qu'on s'arrête sur l'Etna, par exemple, on s'assoit à côté d'une coulée de lave et on devise sur la beauté du monde. J'ai eu des moments comme ça avec Taziev, dans un igloo. Des moments exceptionnels, de qualité. On sent qu'on est à côté d'une personnalité hors du commun. Et sur le plan de l'effort physique, bien sûr. Et sur le plan de la compréhension du monde. Alors, c'est à la tombée de la nuit, hein, c'est ça le moment. Hein, parce que s'il fait nuit, on ne voit que la coulée de lave. Et s'il fait jour, elle est un peu pâle, comme c'est le cas du lac de lave de l'Erebus. Parce qu'il fait jour sur l'Erebus. On n'y va pas l'hiver, on y va forcément l'été. Il fait jour 24 heures sur 24. Donc on est là, assis, tombée du jour. La lave est rougeoyante et on entend ce crépitement de la lave. On est en communion devant la beauté du monde. Il n'y a même plus besoin de parler. On se tait.
France Inter, 9 juillet 1976.
Le volcan de la Soufrière s'est réveillé à la Guadeloupe. Jean-Louis Courleux a pu joindre il y a quelques minutes Aruntazieff, qui est en liaison permanente avec le laboratoire du Globe, situé au pied de la Soufrière.
Ça a commencé à 9h locales ce matin par L'ouverture d'une fissure de quelques 100 ou 200 mètres de long, semble-t-il, et par laquelle des gaz sous pression ont jailli, entraînant avec eux une assez grosse quantité de cendres, c'est-à-dire de roches broyées et de roches fracassées sous forme de blocs.
J'ai été envoyé avec Taziev par le gouvernement français. J'ai été impliqué dans l'équipe pour expertiser cette crise, donner des avis, etc. Bon.
Patrick Allard, volcanologue.
Le volcan se réveille, se rouvre, se fracture et émet dans l'atmosphère jusqu'à 3 km de haut un nuage noir de cendre qui, avec le vent, noie dans l'obscurité les petites villes de Saint-Claude, puis de Basse-Terre, puis de Baïf en bas. Et les gens paniqués fuient, craignant, parce que là-bas est toujours vivant le souvenir de la catastrophe de la montagne Pelée en 1902, avec ses 28 000 morts. Et donc, la souvrière se réveille, il faut intervenir. Donc, après, disons, 8 jours sur place de mesures, on voit que c'est des éruptions qu'on appelle phréatiques, c'est-à-dire surtout de la vapeur d'eau, pas de magma impliqué, que des vieilles roches du dôme de lave sommitale qui est là-bas, comme il en a fait plusieurs dans les siècles passés.
Et cette manifestation vous inquiète ?
Haroun Taziev, 1976.
Pour le moment, non. Ça peut se terminer, comme il y a exactement 20 ans, par un retour au calme total. Et ça peut évidemment aussi évoluer vers une éruption plus grave. Mais cela prendra un certain temps et il n'y a pas de danger immédiat.
Haroun Taziev,
Arthur Mallet.
Il va acquérir très vite la certitude que c'est une éruption bénigne. C'est pour ça qu'il va partir en Équateur, parce qu'il va y avoir un autre volcan qui va entrer en éruption.
L'activité reprend.
Patrick Allard.
Et au mois d'août 76, Taziev n'était pas là. On appelle un professeur de géologie d'Orsay qui ne travaille pas sur les volcans actifs, qui est un spécialiste des volcans éteints du Massif central, qui est panique et qui dit au préfet, ben non, il faut évacuer, c'est déjà peut-être trop tard.
France Inter, 14 août 1976.
La Soufrière, c'est le cauchemar de la Guadeloupe. Et depuis hier, tous les signes avant-coureurs de la grande colère de la Soufrière sont réunis.
Il y avait une forme d'affolement autour de cette Soufrière et on a pris la mesure un petit peu politique d'évacuer en fait les 73 000 personnes de l'île. Ce qui se pose avec la question de cette évacuation, c'est qu'on a pour la plupart des paysans qui n'ont rien, qui vont perdre leurs troupeaux, qui vont perdre leur exploitation agricole, qui vont être entassés de manière précaire, sans accès un petit peu à l'eau courante, à l'électricité. Et donc Haroun Taziev, je pense qu'il y a aussi ce facteur humain qu'il n'a pas négligé, qui s'intéressait beaucoup aussi à la vie des gens. Il y avait un petit peu une forme de sensibilité envers ces paysans qui n'avaient rien et qui ont tout perdu. Et donc il y avait un petit peu cette capacité aussi d'empathie envers les personnes qui allaient tout perdre.
Et donc, tout le monde est évacué. Et puis, il y a une polémique qui s'enclenche, parce que Taziev, revenant à la Soufrière, à la fin du mois d'août, il était en ce moment-là en mission en Équateur. Et puis, le nouveau directeur de l'IPG étant un jeune dynamique collègue qui s'appelait Claude Allègre, qu'il a connu comme jeune assistant en 1964 au Costa Rica. Claude Allègre devient directeur de l'IPGP, c'est-à-dire le supérieur de hiérarchique de Taziev. Ils sont ensemble à Soufrière. Et le 30 août 76, ils montent ensemble au sommet et sont pris par une de ces éruptions phréatiques, qui sont des explosions très dangereuses quand elle est sur place, mais qui ne sont pas dangereuses à quelques centaines de mètres ou à un kilomètre du volcan. Il n'y a plus rien. Ils sont, certains d'entre eux, blessés. Ils ont vraiment échappé de peu à la mort ce jour-là. Et donc, ça crée une tension terrible entre Allègre et Taziev, qui déjà se détestaient aimablement depuis qu'ils s'étaient connus en 64 au Costa Rica, et qui, à ce moment-là, se crispent en une espèce de crise ouverte entre le grand, mais un peu vieux déjà, spécialiste des volcans qui est Taziev, baroudeur des volcans, comme le disait Allègre. Et puis Allègre, qui est un jeune ambitieux, qui n'a pas du tout envie d'avoir Taziev dans les pattes à l'IPGP, et qui supprime son poste de directeur des observatoires volcanologiques. Voilà, il est renvoyé.
Le 5 octobre, j'ai été amené en tant que directeur de l'Institut de physique du globe.
France Inter, 28 octobre 1976, Claude Allègre.
À mettre fin aux fonctions de M. Taziev en tant que chef du service de volcanologie, pour une seule raison, c'est que M. Taziev ne fait pas son travail. J'ai été amené, ce qui est anormal, à m'occuper directement de l'organisation de la surveillance de ce volcan, parce que M. Taziev ne le faisait pas.
Tout cela vous semble injuste.
Ce n'est pas injuste, c'est ubuesque.
C'est absolument ridicule. D'abord, je suis un volcanologue, c'est-à-dire que je ne suis pas un monsieur chargé de tenir la main du malade, en l'occurrence la population ou les autorités. Je suis consulté par les dites autorités pour leur donner mon opinion sur l'évolution que j'estime devoir être celle d'une activité éruptive. Dans les cas où j'ai été interrogé par les autorités de la Guadeloupe, j'ai pu chaque fois dire « ça ira bien ».
Les événements ont confirmé que ce que l'on défendait, à savoir que c'était une éruption purement phréatique et sans évidente évolution vers un pôle plus dangereux magmatique, était vrai.
La Soufrière, c'est une victoire implicite d'Aruntazieff par rapport au diagnostic qu'il avait formulé. Mais c'est une défaite, plutôt du point de vue politique, parce qu'il va être un peu ostracisé, mis à l'écart de tout un réseau d'acteurs.
Donc, il a, l'histoire de la Soufrière a quand même aussi été un conflit, bien sûr, entre deux caractères, deux personnalités qu'ils ne voulaient pas du bien. Conflit d'intérêts, Allègre était jaloux du charisme de Taziev et de sa facilité à passer à la télé. Enfin, Taziev était une des trois personnalités préférées des Français pendant 50 ans, pendant ces années-là, quoi. Et ça, Allègre, il en rêvait. Mais il y avait un vrai conflit aussi entre deux écoles de formation scientifique. L'ancienne, naturaliste, observationnelle, on va dire, et puis la nouvelle, représentée par Allègre, beaucoup plus basée sur les mesures, sur des mesures fines, sur beaucoup plus carrées sur le plan de la science, beaucoup plus approfondies, etc. Donc deux écoles, deux époques et deux caractères.
Cet événement de la Soufrière, il a eu pas mal de répercussions sur la vie d'Aruntazieff, à la fois au niveau de son parcours, puisqu'il va être limogé de son rôle à l'Institut physique du Globe, et il va être rattrapé dans la foulée au sein d'une structure hybride du CEA et du CNRS à Gif-sur-Yvette, au laboratoire des faibles radioactivités. Donc déjà, il y a une première rupture au niveau professionnel, et en fait, il va y avoir un déplacement du centre de gravité de ses actions vers la prévention des risques. Dès 81, il va être commissaire d'études à la prévention des risques. Il va utiliser toute son expérience de terrain pour bâtir le socle d'une réflexion institutionnelle et politique par rapport à cette prévention des risques, avec à la fois tous les éléments en amont, le diagnostic scientifique, qu'est-ce qu'on en fait, comment on l'utilise, mais aussi en aval, qu'est-ce qu'on fait avec la population.
Jean-Christophe Sabrou.
Donc Taziev a mis en place les plans d'exposition au risque, la loi catastrophe naturelle dont on voit les effets jusqu'à maintenant, ce qui s'est étendu aux catastrophes telluriques, catastrophes météorologiques. Le risque de glissement de terrain, il a beaucoup attiré l'attention là-dessus. La médecine de catastrophe, les feux de forêt. Dès qu'il y a une inondation, on parle de l'indemnisation au titre de la loi des catastrophes naturelles. Donc il a mené cette réflexion et l'héritage est là.
Alors la fin de vie d'Aruntazieff,
Arthur Mallet,
elle est marquée notamment par un engagement politique au niveau local, donc sur des responsabilités au niveau municipal, régional et départemental. Donc au niveau municipal, il va être maire de Mirmande, dans la Drôme, de 79 à 1989. Il va être également membre du conseil régional de la région Rhône-Alpes et il va mener, dès 86, une expérimentation, c'est Isère département pilote, sur la prévention des risques appliqués au département de l'Isère. Parce qu'en fait, en Isère, avec le Vercors et les massifs montagneux, on a les risques d'avalanche, on a les risques de séisme, on a les risques d'inondation avec les crues de l'Isère. Et donc, il va tester l'opérationnalité de ses propositions au niveau de la prévention des risques sur le département de l'Isère essentiellement. Puis dans les années 90, il va aussi avoir un engagement écologique. En 92, il participe au sommet de la Terre à Rio. Il va être aux côtés de la ministre de l'Environnement qui était Ségolène Royal. Et en fait, Aruntazieff, il va être reçu comme un chef d'État à ce sommet de la Terre, avec Jacques-Yves Cousteau notamment, parce qu'il a mis la lumière sur des problèmes, des thématiques qui étaient en toile de fond en fait. Et sur cette question du rapport à l'environnement, la formation de la jeunesse, il va s'investir sur le terrain militant pédagogique sur ces périodes-là.
Dans le monde actuellement,
Patrick Allard.
Il y a plus de 850 millions de personnes qui vit dans un rayon de moins de 100 km d'un volcan actif. donc qui sont directement exposés aux risques posés par les volcans, mais qui bénéficient aussi des atouts des volcans. Hein. Les volcans, c'est aussi une source de terre fertile, d'eau, quand ce sont des reliefs, de matériaux pour la construction, et de ressources géothermales également, dans plein de pays. Donc, les gens vivent aussi là parce qu'il y a des intérêts. Mais le risque volcanique touche potentiellement pas loin d'un milliard d'humains sur Terre, c'est-à-dire 1 sur 7, hein, pas loin. Et donc, c'est une thématique d'importance globale.
Anne Fornier, vous êtes volcanologue. Comment est venue votre passion de la volcanologie ?
C'est Aaron Taziev, lors de ses conférences Connaissances du monde, qui m'a donné cette envie de découvrir le monde volcanique. J'avais entre 5 et 8 ans. Et c'est une figure qui est très mythique, en tout cas pour moi, puisque en fait j'ai marché un petit peu sur ses traces, ou en tout cas sur les volcans qu'il avait décrits dans ses livres. Aaron Taziev est décédé en 1998, j'avais juste 20 ans, et c'est cette année-là où j'ai vécu ma première éruption volcanique. Et quand un volcan est en éruption, on écoute le son de la Terre, donc c'est quand même quelque chose d'impressionnant. Ensuite, avec les années, je me suis rendu compte qu'effectivement, il n'y a pas que le volcanisme ou le côté féerique ou sexy, entre guillemets, de filmer un volcan en éruption, puisqu'il y a toute la problématique sociale qui est derrière, géopolitique sur les terres volcaniques, et puis maintenant de la préservation aussi de la biodiversité, puisque les zones volcaniques ont à peu près 80% des écosystèmes endémiques de notre Terre. Donc il faut prendre conscience que toutes ces zones volcaniques, eh ben, il faut les protéger. Alors on peut difficilement faire quelque chose face à un volcan en éruption. Par contre, on peut atténuer les impacts de l'éruption volcanique.
Par exemple, en faisant quoi ?
Bah déjà, la prévention, c'est-à-dire qu'on a à peu près 40% des volcans actifs sur notre planète qui ne sont pas surveillés. Alors, ils sont surveillés avec les satellites, mais justement, Aaron Taziev et d'autres ont montré que l'importance de faire l'analyse des émanations chimiques en zone volcanique, c'était extrêmement important pour savoir à quel niveau, ou en tout cas quand le volcan va entrer en éruption. Et pour cela, il faut des équipes humaines qui aillent chaque semaine faire des mesures d'émanations de gaz. Et ben ça, les satellites ne nous donnent pas encore toutes ces analyses. Et donc, il y a à peu près 40% des volcans terrestres qui ne sont pas surveillés qualitativement et quantitativement. Et puis ensuite, on a à peu près 1 million de volcans sous-marins dont on n'a aucune donnée. Et pourtant, ils entrent en éruption. Donc en fait, on a tout un monde de la volcanologie qui n'est pas étudié. Donc c'est très important pour connaître un risque, et en tout cas l'anticiper ou l'atténuer, bah de connaître où en est notre volcan. Et chaque volcan est différent. On peut pas forcément modéliser. On peut pas comparer notre Nyiragongo avec un volcan, par exemple, en Tanzanie, ou un volcan sur l'île de la Réunion. Chaque volcan a son propre ADN, puisque le magma est différent entre chaque volcan. Et juste pour vous donner un exemple, je suis arrivée au sommet du Nyiragongo à peu près vers les 4 heures de l'après-midi. Donc j'ai pu voir ce fameux lac de lave. Et ce qui m'a fascinée sur le Nyiragongo, c'est qu'on a cette beauté féerique. C'est quelque chose d'incroyable. Vous avez la terre à cœur ouvert. Mais quand vous vous retournez, vous voyez la ville de Goma et vous voyez un immense lac d'eau. Et malheureusement, ce volcan, il a rempli ce lac d'émanations de dioxyde de carbone. Et donc, ce dioxyde de carbone peut exploser. Et vous savez que le dioxyde de carbone, à plus de 37%, on va dire, dans l'air, et ben, on meurt directement. Et donc, c'est complètement terrorisant, puisqu'il y a 2 millions de personnes qui peuvent mourir avec toute la problématique environnementale qui est associée.
Patrick Allard, en quoi l'activité volcanique est liée à la question du réchauffement climatique ?
Le réchauffement climatique, normalement, n'affecte pas l'activité volcanique, puisque c'est les forces internes de la Terre qui sont en jeu. Mais par contre, on a vu, parce qu'on sait ça par l'étude de l'activité volcanique passée, que certains volcans recouverts de glace, dans les Andes ou en Islande, quand ils n'ont plus cette calotte, l'épaisseur, le poids, la gravité de cette calotte glaciaire qui peut être de plusieurs kilomètres d'épaisseur, qui sur leur cratère, sur leur réservoir de magma, ils font éruption plus facilement, plus fréquemment. Voilà. Donc ça, c'est une possible conséquence du réchauffement climatique sur la fréquence de l'activité volcanique dans les régions ex-polaires ou couvertes de glace. Par contre, l'inverse, c'est que les éruptions volcaniques sont des bienfaiteurs pour l'humanité par rapport au réchauffement climatique. C'est que les grandes éruptions volcaniques capables d'injecter les poussières et les gaz dans la stratosphère, c'est-à-dire au-delà de 15 km d'altitude, sont capables d'affecter le bilan radiatif de la Terre, parce que les gouttelettes d'acide sulfurique qui se forment absorbent une bonne partie du rayonnement solaire et refroidissent donc la basse couche de l'atmosphère et donc le sol. Et donc les grandes éruptions volcaniques sont toujours marquées par un refroidissement temporaire, quelques années, de la Terre, mais qui peut être de plusieurs degrés. Donc plusieurs degrés, on se bat là pour éviter de réchauffer la Terre de plus de 1,5 degré. Quand on a une éruption volcanique, par exemple celle du Pinatubo en 91 aux Philippines, on a refroidi la Terre de 0,4 degrés, toute la Terre, pendant 2-3 ans. Et on a des exemples dans le passé de refroidissement dépassant le degré, de plusieurs degrés, dans le cas des très grandes éruptions. Donc, plus d'éruptions volcaniques permettraient de mieux combattre le réchauffement climatique.
Arun Taziev, est-ce que je pourrais vous demander ce que vous voudriez faire si vous aviez fait toutes les possibilités?
1959.
Bon, je ne pense pas que je voyage, je commence à être un peu rassasié de voyage, mais au contraire, j'irai vivre dans l'un ou l'autre de ces innombrables coins de France que j'adore, en Haute-Provence, dans les Alpes, dans le Languedoc, je ne sais pas où, enfin...
Pour y trouver quoi?
Ben, je voudrais lire, je voudrais avoir le temps de lire, ce que je n'ai jamais... Je voudrais continuer aussi longtemps que mes jambes le permettent à jouer au rugby. Je voudrais étudier au microscope les innombrables roches que j'ai ramenées de tous les voyages et qui sont là en attente. Je voudrais écrire des bouquins à l'aise, raconter non seulement donc des aventures, mais aussi ce qui me passe réellement par la tête quand je vagabonde. J'aime beaucoup les jeunes, je m'entends bien avec eux, j'aime les gosses et j'aimerais leur passer un petit peu de mon expérience, de ce que j'ai appris peu à peu, aussi bien sur le monde que sur moi-même, que sur les hommes et la façon de s'y conduire. Quoique, on apprend surtout par soi-même, évidemment, mais enfin, tout de même, le peu que l'on peut passer aux autres, ça vaut la peine.
C'était Arun Taziev, 1914-1998, au plus près des volcans. Avec Frédéric Lavacherie, fils de Arun Taziev et auteur de la biographie « Un volcan nommé Arun Taziev », édition de l'Archipel, Patrick Allard, volcanologue, ancien membre de l'équipe scientifique de Taziev, directeur de recherche émérite à l'Institut de physique du Globe de Paris, Jean-Christophe Sabrou, volcanologue, ancien membre de l'équipe scientifique et du commissariat à la prévention des risques naturels majeurs de Taziev, Arthur Mallet, historien doctorant à l'Université Rennes 2, et Anne Fournier, volcanologue et créatrice de la Fondation Volcano Active. Prise de son, Bastien Varigo, Alexandre Abergel. Mixage, Mathieu Tourin. Archivina, Pierre Pinault. Documentation, Véronique Lefaller. Attaché de production, Sylvia Favre. Coordination, Christine Bernard. Un documentaire d'Élise Gruau, réalisé par Agnès Catou.